Vous écoutez, on lit pour vous.
Lecture du second texte du dossier du devoir du 11 mai 2026, titré « De la suite dans les idées et pensées dans un monde numérique ». Le titre de ce second texte, « La mort du texte ou vers une nouvelle oralité ». Texte signé Philippe Gendron-Turcotte, qui est doctorant en littérature à l'Université de Montréal et à Sorbonne Université. En sous-titre, devant l'inéluctable hégémonie des intelligences artificielles, la connaissance et la culture devront se tourner vers d'autres relais. De très vifs débats autour de l'émergence de technologies d'intelligence artificielle générative occupent une place essentielle dans le discours social d'aujourd'hui, sans pour autant que se réconcilient deux camps fermement opposés. Charmés par les héros de telle technologie, les uns prévoient une ère nouvelle placée sous l'empire de ces systèmes censés réfréner tous les maux. Les autres, plus sceptiques, se méfient de ce qu'ils considèrent comme une énième lubie de la Silicon Valley, incapable de tenir ses promesses, répétées à l'envi, d'un avenir universellement prospère. Malheureusement, cet antagonisme a pour effet d'escamoter de pressantes questions. Bien qu'il soit évident que le rêve prométhéen de voir naître une intelligence artificielle générale, à même de dépasser l'intelligence humaine, ne se réalisera pas de sitôt, force est de reconnaître qu'en à peine quelques années, les logiciels d'intelligence artificielle ont largement transformé le paysage du marché de l'emploi, bouleversé le monde des arts et, plus encore, celui de la recherche universitaire. Rares sont ceux qui ne sont pas touchés, de près ou de loin, par les contre-coups d'une révolution d'envergure dont le monde serait à la veille. Avant de supplanter définitivement l'humain, les systèmes doivent encore faire leurs preuves, et nombreux sont les obstacles à franchir. Dans « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », publié en 2023, Daniel Handler évoquait en cela une « dette théorique », entre guillemets, démontrer, sur le plan pratique, ce que l'intelligence artificielle pourrait, en théorie, accomplir à terme. Or, les nouveaux logiciels, mois après mois, s'en acquittent avec une efficacité étonnante et déconcertante. Selon de nombreux indicateurs, ils atteignent désormais des objectifs préalablement théorisés, mais non vérifiés, aussi bien que des humains, sinon mieux. Pour s'en délester pleinement, il reste encore, bien sûr, à attester qu'ils seront un jour dotés d'une intelligence dite « humaine », entre guillemets, quelle que soit la définition que l'on en donne. Mais leur essor a de quoi fortement inquiéter. À court terme, presque tous les domaines qui reposent sur l'écriture seront profondément affectés. Des études affirment que, d'ici quelques années, près de 95% des tâches scripturales pourront être effectuées par des systèmes d'intelligence artificielle, parce qu'elles sont intrinsèquement construites à partir d'une séquence lecture, réflexion, écriture, vérification, selon des chercheurs de SEMI-Analysis, S majuscule M-E-M-I, A majuscule N-A-L-Y-S-I-S, toutes ces tâches sont donc reproductibles. Les logiciels de ChatGPT à Claude, en passant par Gemini, savent d'ores et déjà programmer, voire écrire aussi bien que le font des humains, sinon mieux. Demain, l'écriture sera-t-elle chose morte? Pour qui estime son importance et pour qui valorise les arts textuels, l'intégrité journalistique, l'apprentissage par le texte et le bien écrire, cette perspective donne froid dans le dos. Un changement de paradigme nous guette qui risque de redéfinir notre rapport à l'écrit. Quelle valeur lui restera-t-il lorsque les machines se seront emparées des fonctions textuelles, hier dévolues aux humains? Quelle confiance aurons-nous en ce qui relève de formes scripturales, romans et articles, documents et archives, si celles-ci sont, en quelques secondes, aisément reproductibles? Et quelles implications pour l'éducation entraînera ce monde où l'écriture et la connaissance sont automatisées, artificielles, entièrement numériques? Le temps le dira. Devant l'inéluctable hégémonie des technologies d'intelligence artificielle, la connaissance et la culture devront se tourner vers d'autres relais. Une culture nouvelle de l'oralité, une logosphère, pour reprendre le terme proposé par Régis Debray dans son cours de médiologie générale, publié en 1991, fera émerger de nouveaux modes d'échange, de transmission et de circulation discursive qui se grefferont inévitablement au réseau numérique. En cela, réfléchir à l'implantation de nouvelles technologies d'intelligence artificielle exige non pas de mesurer leur profitabilité ni leur capacité au regard du cerveau humain, mais plutôt d'envisager leurs effets potentiellement délétères sur le partage du savoir au cœur de toute vie culturelle branchée sur quelque forme de textualité. Évidemment, l'intelligence artificielle ne signe pas l'irréversible caducité du texte écrit, mais le drape d'un soupçon. Dans une constellation de domaines, à commencer par l'éducation, il retrouvera une position subalterne pour le meilleur et pour le pire. Aussi glauque ce constat puisse-t-il paraître, il en appelle à reconsidérer ce qui fait notre commune humanité, à prendre la mesure de l'importance des arts vivants et à réaffirmer notre présence au monde en dehors de notre seul rapport à la technologie, surtout lorsque celle-ci peut tout faire. Pour affronter les mutations de ce monde, l'éducation, et particulièrement l'éducation secondaire et supérieure, gagnera à remettre au cœur de ses chantiers l'importance d'une vie bonne, dans le respect de soi et de l'autre, de l'intersubjectivité, ainsi que la vertu du dialogue et de la délibération. Au contraire de l'écriture, tout ne peut pas être essentialisé, catégorisé, morcelé et reproduit. L'intelligence artificielle, dans son ultime forme, risque d'entraîner la mort du texte et de brouiller du même coup nos repères de communication, de transmission et d'échange. Mais son avènement nous pose aussi à revenir vers des pratiques communautaires et éducatives qui donnent sens au vivre ensemble, d'y reconnaître l'essence de notre vie sociale et culturelle. Fin de ce texte titré « La mort du texte ou vers une nouvelle culture de l'oralité » signé Philippe Gendron-Turcotte et publié dans Le Devoir du 11 mai 2026 sous le titre du dossier De la suite dans les idées, penser dans un monde numérique.
Comment la grande bibliothèque accueille les populations marginalisées en ses murs? Un texte de Caroline Montpetit paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. À 12h30, Ernson Saint-Phar entreprend sa ronde aux étages de la Grande Bibliothèque à Montréal. Au quatrième, réservé aux films et à la musique, un agent de sécurité l'oriente vers un jeune homme, la tête couchée sur son pupitre. Au troisième, il converse quelques instants avec une dame au sac encombré. Monsieur Saint-Phar est intervenant psychosocial à la Société de développement social. Depuis quelques années, l'organisme assure une présence permanente à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, en soutien aux populations marginalisées. Plus tard, Ernson Saint-Phar explique que le jeune homme, âgé de 19 ans, nouvel arrivant, n'a pas de domicile ni de parents et est aux prises avec des problèmes de santé mentale. La dame, âgée du troisième, se rend pour sa part tous les jours à la bibliothèque pour lire. Surtout des livres de cuisine, dit-il. Même si elle n'a pas de domicile fixe, donc pas de cuisine. Elle est accompagnée de son fils d'une quarantaine d'années qui pianote sur l'ordinateur. Les deux vivent en refuge. Pour l'instant, ils refusent toute solution de rechange. Parmi les étudiants penchés sur leurs ordinateurs ou sur une partie d'échecs, au milieu des revues et des livres, plusieurs personnes ont trouvé le sommeil dans quelques coins de l'immense édifice. Autour d'eux, tout est calme. Personne ne trouble l'ordre public. Au terme de sa ronde, Ernson Saint-Phar retournera à son bureau pour recevoir ceux qui cherchent à avoir un accès à un téléphone, une petite collation au besoin, de l'aide pour trouver un logement, un service de santé ou un emploi, par exemple, ou simplement pour discuter un peu. Plusieurs s'y présentent après la fermeture des refuges le matin. Au rez-de-chaussée, un homme qu'Ernson Saint-Phar connaît bien a un petit accès de colère bruyant. Quelques minutes plus tard, il s'est assoupi sur une chaise, un livre à la main. « Normalement, il ne dérange jamais », dit l'intervenant. « Il doit s'être passé quelque chose. » Par définition, notamment souligné dans le manifeste IFLA UNESCO, la bibliothèque publique est un lieu démocratique, ouvert et accessible à tous. Parce qu'elle est ouverte sur le monde, elle reflète les tensions de la société. Itinérance, santé mentale, isolement, précarité. Les réalités qui s'observent à l'extérieur se transposent entre ces murs. Halte chaleur durant les périodes de grand froid, BANQ est aussi une halte tout court le reste de l'année pour qui cherche un peu de silence et de paix. La présence d'un intervenant qualifié a également pour fonction de calmer les tensions. Faire passer un message ou rappeler une règle, ça ne se fait pas de la même manière quand il y a un lien déjà établi, dit Jean-François Fortin, responsable du dossier à l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ. La formule n'est pas miraculeuse. Une soixantaine de personnes ayant contrevenu au règlement sont présentement interdites d'accès à la grande bibliothèque pour une période de 2 ans. 60, ce n'est pas beaucoup sur un total de 5 000 usagers, dit Sébastien Nadeau, directeur de l'accès aux services de BANQ. Le nombre de plaintes, quant à lui, reste stable. À BANQ, ce n'est que depuis 2023 que des intervenants sont affectés en permanence à l'intervention psychosociale et leur présence a été rendue possible par une subvention du gouvernement du Québec. Au Québec, c'est à la bibliothèque de Drummondville, en 2021, que les premières initiatives du genre ont été prises. Aujourd'hui, c'est une trentaine de bibliothèques du Québec qui se sont dotées d'un certain service d'aide sociale. La bibliothèque Gabriel-Leroy, située au milieu du quartier Saint-Roch, à Québec, a elle aussi intégré cet aspect important de sa mission. Plus d'isolement. L'isolement s'est accentué après la pandémie. Il a été le premier signal d'alerte, mais rapidement, on a vu apparaître toute une série d'enjeux sociaux, explique Jean-François Fortin. Une fois à la retraite, certaines personnes âgées voient dans la bibliothèque un milieu social. Ernson Saint-Phar parle de cet homme qui occupait autrefois une profession lucrative, qui adore fréquenter la bibliothèque, même s'il confond parfois la porte de l'ascenseur avec celle de sa chambre à coucher. Un autre refuse de fréquenter un centre de jour parce qu'il préfère se retrouver dans cet espace public parmi les gens et les livres. BANQ a aussi assoupli son règlement au sujet des gens qui dorment sur place, que ce soit des étudiants surchargés ou des personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, on les laisse dormir. On regarde leurs signes vitaux, dit Ernson Saint-Phar. Si après plusieurs heures, la personne dort toujours, on tentera de la réveiller pour amorcer une intervention avant la fermeture. D'abord, la gardienne de la culture et du patrimoine, la bibliothèque diversifie maintenant ses rôles. Des formations sont prévues pour que le personnel sache naviguer parmi les réalités d'aujourd'hui. Et l'ABPQ organise régulièrement des rencontres entre intervenants travaillant dans les différentes bibliothèques du Québec pour qu'ils discutent des défis auxquels ils font face. On est au début de quelque chose, conclut Jean-François Fortin. Mais tout indique que la bibliothèque est appelée à jouer un rôle de plus en plus important dans le tissu social. C'était « Comment la grande bibliothèque accueille les populations marginalisées en ses murs », un texte de Caroline Montpetit paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.
Un épisode El Niño de plus en plus probable, mi-2026, selon l'ONU. Un texte de l'agence France Presse, paru le 24 avril 2026 dans Le Devoir. Le développement d'un épisode El Niño est de plus en plus probable à partir de la mi-2026, avec des incidences sur les températures et précipitations à l'échelle mondiale, a annoncé vendredi l'Organisation météorologique mondiale, OMM. Selon la dernière mise à jour de cette agence de l'ONU, qui note un net changement dans le Pacifique équatorial, les températures de surface augmentent rapidement, laissant présager un retour probable d'El Niño dès la période de mai à juillet 2026. Les prévisions pour ces trois prochains mois indiquent une prédominance quasi mondiale de températures supérieures à la normale à la surface des terres émergées, ainsi que des variations régionales des régimes de précipitations, précise l'OMM, se basant sur les prévisions de plusieurs centres climatologiques. Après une période de conditions neutres en début d'année, qui a suivi l'épisode La Niña de 2025-26, on estime avec un degré de confiance élevé qu'un épisode El Niño va débuter, suivi d'une nouvelle intensification dans les mois qui suivent, a déclaré M. Wilfran Mufuma-Okia, chef de la section de la prévision du climat de l'OMM. Selon les modèles, il pourrait s'agir d'un épisode de forte intensité, a-t-il expliqué, précisant que le niveau de confiance dans les prévisions s'améliore après avril. El Niño se caractérise par une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il se produit d'ordinaire tous les 2 à 7 ans et dure environ 9 à 12 mois. Le dernier épisode El Niño, en 2023 et 2024, avait fait de ces années les deux plus chaudes jamais enregistrées. Le phénomène cyclique affecte par effet domino le climat mondial pendant plusieurs mois. L'OMM a indiqué qu'elle publierait son prochain bulletin, Info Niño Niña, à la fin du mois de mai, afin de fournir des orientations plus fiables pour la prise de décision durant la période de juin à août et au-delà. Par ailleurs, l'OMM prévoit pour la période de mai à juillet des températures à la surface des terres émergées supérieures à la normale quasiment partout. Le signal est particulièrement fort dans le sud de l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et les Caraïbes, ainsi qu'en Europe et en Afrique du Nord, ajoute l'organisation, selon laquelle les prévisions pluviométriques montrent, elles, de fortes variations régionales. Selon l'OMM, il n'est pas prouvé que le changement climatique augmente la fréquence ou l'intensité des épisodes El Niño. Par le passé, l'OMM avait également indiqué que les phénomènes climatiques à grande échelle d'origine naturelle, tels qu'El Niño et la Niña, s'inscrivent dans un contexte plus large de changements climatiques d'origine anthropique. C'était un épisode El Niño de plus en plus probable, mi-26, selon l'ONU. Un texte de l'agence France Presse, paru le 24 avril 2026 dans Le Devoir. Thank you.
La révolution numérique des données s'amorce dans les 1000 bibliothèques publiques du Québec. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir. La stratégie numérique des bibliothèques publiques du Québec, maintenant en branle, va finalement coûter 5 fois moins cher que prévu. Une rareté. La tendance des chantiers étatiques de numérisation va plutôt dans le sens des dérapages inverses. Le budget initial, dévoilé au tournant de la décennie, prévoyait un investissement d'environ 250 milliards de dollars pour faire prendre le virage numérique complet au secteur des bibliothèques. Les dernières projections, confiées au Devoir par les promotrices du chantier, mise désormais sur une enveloppe globale d'un peu plus de 55 millions. Cette réduction au cinquième des coûts anticipés s'explique par l'amélioration des outils numériques. Au moment de l'étude de faisabilité, en 2011, le projet pensait devoir développer ses propres programmes. Il est maintenant possible d'utiliser des systèmes éprouvés. L'enveloppe révisée et diminuée de la stratégie numérique des bibliothèques va permettre aux quelques 1000 établissements du Québec de réaliser une révolution des pratiques et des services présentés comme uniques au monde, du moins à cette échelle nationale. À terme, d'ici le tournant de la décennie, les établissements pourront accumuler et analyser les données sur les collections et leurs usages pour offrir une expérience efficace et personnalisée aux citoyens. L'objectif est de mutualiser une seule et même solution numérique pour l'ensemble des membres, résume Ève Lagacé, directrice générale de l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ. Une des pilotes du programme. Les bibliothèques vont entrer dans le 21e siècle. On nage dans une mer de données autant du côté des documents que des usagers. On va être en mesure de faire dialoguer ces deux côtés qui ne se parlent pas actuellement, notamment pour améliorer la découvrabilité des contenus. L'ABPQ mène ce chantier avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, et le réseau Biblio du Québec, RBQ. L'entrevue pour faire le point sur l'implantation de la stratégie numérique a eu lieu le mois dernier dans le bureau de Marie Grégoire, PDG de la Grande Bibliothèque du Québec, en compagnie de Julie Blais, présidente du RBQ. La diminution substantielle des budgets tranche avec la routine habituelle des administrations publiques. Plusieurs grands chantiers de numérisation d'organismes et de services gouvernementaux, comme le dossier santé numérique ou le système de paye Phoenix, ont largement dépassé leurs budgets initiaux au cours des dernières années. Le projet SACLIC, initialement budgété à 638 millions en 2017, a finalement coûté presque 2 fois plus cher. La stratégie en marche depuis 2019 a reçu 31,3 millions de dollars au dernier budget du Québec en mars. Il faudra ensuite environ 25 millions pour achever la création du réseau numérique. Les appels d'offres vont être lancés sous peu. Les branchements tests des premiers établissements se feront en 2027. Le déploiement progressif devrait permettre l'intégration de 100% des bibliothèques d'ici 2035. Favoriser la découvrabilité. Les études préalables ont montré que les bibliothèques publiques québécoises pourraient devenir plus actuelle et efficace et proche de la population avec cette transformation majeure. Dès le départ, le projet a été défendu de manière collaborative par l'ABPQ, BANQ et le RBQ. Les bibliothèques des écoles, des collèges et des universités en sont exclues. Le plan concerne uniquement les bibliothèques municipales et publiques. Les directrices donnent des exemples concrets des retombées attendues. En déménageant d'une ville à une autre, un usager pourra conserver son historique d'emprunt. Un parent pourra distinguer ses emprunts de ceux de ses enfants. Et si une cliente a lu plusieurs livres d'une autrice, le système pourra lui recommander sa dernière parution. Mais on veut aussi faire en sorte que les citoyens tombent sur des propositions qu'ils ne cherchaient pas, ajoute Madame Lagacé. C'est vraiment ça, la définition de base de la découvrabilité. On va à la fois simplifier l'expérience des usagers et augmenter la découvrabilité parce que nos plateformes seront plus attrayantes et plus performantes. La grande numérisation va générer des données analysables par l'intelligence artificielle qui pourra à la fois aider à mieux gérer les collections et faire des recommandations de lecture personnalisées. Madame Lagacé évoque un parallèle avec les recommandations d'écoute et de visionnement proposées automatiquement par des plateformes comme Spotify ou Netflix. Ces moyens techniques vont bonifier les accompagnements par les bibliothécaires. La révolution technologique ne remplacera pas le contact humain, qui est super important en milieu rural, ajoute Madame Blais du RBQ. Les transformations devraient aussi permettre d'améliorer la sécurité des systèmes et d'éviter des ruptures de service. Les promotrices assurent que les données des clients seront protégées dans le respect de la loi 25, qui a modernisé la protection des renseignements personnels au Québec. Entrée en vigueur de façon échelonnée, 2021-2024, le texte législatif impose aux entreprises et aux organismes publics plus de transparence. Un consentement strict, la nomination d'un responsable, la déclaration d'incident et le droit à la portabilité des données. Je peux rassurer, ça fait partie du cahier des charges et cet objectif de protection des données fait partie des objectifs bien identifiés dès le début, dit Marie Grégoire. On a déjà prévu des primes si l'hébergement des données se fait au Canada. Les gens devront en plus indiquer clairement s'ils permettent l'usage de leurs données. C'était la révolution numérique des données s'amorce dans les 1000 bibliothèques publiques du Québec. Un texte de Stéphane Baillargeon paru le 9 mai 2026 dans Le Devoir.